France Inter.
C'est la bande originale, figurez-vous, pour finir cette semaine avec Leïla Kazemouzadi, Lisa Desmoitié, Emma Beauchamp, Julien Santini,
coucou, Nagui.
Tanguy Passureau, Oldelaf, Daniel Morin,
coucou, Santini.
Et notre invité, Monsieur Philippe Torreson.
Oui, bravo,
Philippe, Philippe.
La bande originale, Leïla Kadour et Nagui.
N'ayez pas peur, Philippe, il est attaché.
Il est attaché.
Bienvenue Philippe, ravi de vous accueillir. Nous allons parler de
du nouveau gouvernement qui se met en place doucement.
De Figaro, c'est bien plus
de la folle journée. Ça reste, tout ça reste des folles journées. La folle journée, ce mariage de Figaro de Beaumarchais, adapté et mis en scène par Léna Brébon, et avec une distribution impressionnante. On va en parler, mais d'abord petit tour de table pour savoir quel est le grand classique. Là, on parle de Beaumarchais, mais quel est le grand classique qui... Je te vois déjà opiner du chef, Julien. Est-ce que tu es un amoureux des femmes savantes, du bourgeois gentilhomme
Mais moi, je suis un amoureux de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais.
Ok.
Donc pas Molière. Si tu voulais un Molière ou un...
Non, mais je l'aime trop pour pouvoir le j'ai
dénigrer.
Envie de le célébrer, quoi. Il y a des phrases qui sont folles. Je me presse de rire de tout, de peur d'en pleurer.
Ouais.
L'humour et la politesse du désespoir. Mmh. Et puis la devise du Figaro, sans la liberté de blâmer, n'est point de loge flatteur.
Du journal
Figaro. C'est un auteur extraordinaire.
Cette réplique d'ailleurs est dite
dans ce fameux monologue qui est le plus long monologue du théâtre français.
Ah bon?
Ah ouais. C'est pas plus long texte que ce monologue.
D'accord.
Il dit aussi, il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits.
Je voulais le dire.
C'est vrai.
Philippe. Et toi, Lisa?
Moi, c'est L'Avare de Molière, parce que c'est la première pièce classique que j'avais vue, je me souviens.
Que tu as prise ou
non, que j'avais vue au théâtre. D'accord. Et c'était Christian Hay qui jouait.
Ah ouais.
C'était à Bruxelles.
Très bien. Emma Beaujean, est-ce qu'il y a un classique qui t'a marqué?
Ouais, moi je crois que c'était Othello et c'était la première fois que j'aimais du théâtre classique. J'étais allée le voir assez jeune au Conservatoire National, voir des copains jouer. Et du coup, c'est la première fois que je comprenais. Et bon, c'est aussi la première fois que j'allais voir du théâtre classique, mais c'est la première fois que j'en lisais pas uniquement et que je le vivais, que je le comprenais et ça m'a bouleversée.
Leïla, professeur de français, oui. Là, t'es obligé de... Ouais. Alors là, j'imagine que t'en as plusieurs, c'est dur de choisir.
Moi, j'ai une tendresse pour Lucrèce Borgia. Parce que c'est un personnage fabuleux.
En quoi?
Parce que c'est un personnage à la fois monstrueux d'une certaine façon, qui est dans l'excès, qui exaspère absolument tout le monde, qui terrifie tout le monde, et en même temps, c'est
quand
même...
Dis donc, ce serait pas un peu toi?
C'est ça. Et en même temps, c'est une femme, pour reprendre les expressions un peu galvaudées de notre époque, une femme puissante, une femme déterminée, une femme qui est avant tout.
Ouais, mais Leïla, on va faire un remake. Oldelaf.
Je vais être classique, je pense que c'est Cyrano. C'est
ah ouais,
ah oui, évidemment.
C'est vrai. Mais c'est quand même pas mal.
D'ailleurs, vous avez donné un superbe Cyrano il y a quelques années.
Que c'est pas mal.
Ouais. C'est pas mal. J'aime bien la formule. C'est pas mal. Ouais. Daniel, moi. Ouais.
Oui, ben pour des personnages qui nous ressemblent, moi, c'est un peu le misanthrope.
Bon, ben moi, je vais prendre.
J'aurais dit L'Avare.
Je vais prendre les fourberies de Scapo.
Ah oui,
évidemment. Oui. Et puis, alors, à propos des phrases, tu as raison, Julien, il y a des punchlines de Beaumarchais qui sont absolument dingues. Une que je vais me faire tatouer sur le corps. Prouver que j'ai raison serait accorder que je puisse avoir tort.
Ouais. Que dit ça, Suzanne.
Dès l'ouverture, ça, je me suis dit, ça, c'est totalement moi. Pourquoi prouver que j'ai raison? C'est n'importe quoi.
C'est
comme ça. Et vous, alors? Alors, évidemment, que vous
compliqué.
Êtes, Philippe, oui, dans cette folle journée, le mariage de Figaro, mais est-ce qu'il y a un classique qui vous a marqué à vie?
Oh oui, plein, mais là, j'étais d'accord avec tout ce que vous avez cité. J'en ai joué pas mal, Scapin notamment, Cyrano aussi. J'aimerais bien jouer L'Avare aussi. Je trouve ça formidable.
Et Lucrèce, non?
Comme
Guillaume Gallienne,
oui, c'est
faire.
Ce que j'allais dire. C'était formidable ce qu'il avait fait dedans. Et j'aime beaucoup Guillaume Gallienne. Et moi, il n'est pas français le classique qui me.
C'est, très
bien. Je serais un peu comme vous. C'est pour aller chercher du côté de Shakespeare. Mm-hmm. Je pense que c'est la pièce des pièces, c'est Hamlet. Mm. Je n'arrive pas à me détacher de cette pièce. J'ai eu la chance de la jouer deux fois.
C'est la pièce des pièces. En quoi elle se distingue?
Je trouve qu'elle contient toutes les autres, en fait. Et il y a un peu de Shakespeare chez Molière, un tout petit peu. Il y a du Shakespeare un petit peu partout. Mais Shakespeare contient tous les auteurs. tous. Et il a inspiré tous les auteurs, après lui, évidemment. Et, mais c'est démentiel. C'est un homme qui a augmenté la langue anglaise de 40% au niveau vocabulaire. Mm-hmm. C'est quand même, il y a aucun auteur au monde n'a augmenté sa langue maternelle de 40%. C'est phénoménal.
C'est-à-dire qu'il a augmenté, vous pouvez m'expliquer.
Bah, en inventant des contractions, des mots aussi, parfois des expressions,
C'est peut-être parce qu'il parlait mal.
C'est comme le français qui est venu d'un mauvais latin. Hein. Ouais, peut-être.
C'est vrai. c'est une langue vivante, donc elle vit avec la manière dont on l'emploie. Philippe Torreton est notre invité jusqu'à 12h30. Tout de suite, voici votre plus grand fan, Ol de la.
Ouais, je suis fan de Philippe Torreton. Une légende vivante, c'est notre champion. Je connais à peu près tous vos rôles par cœur, mais mon préféré reste quand même les Tortons Flingueurs. Je suis fan de Philippe Torreton. Je sais pas si vous le savez, mais moi je suis une légende de la chanson. Mais j'aurais beau me battre, faire des pieds et des bras, c'est quand même sur vous le film Les Tortons Ninja. Merci.
T'as pas honte.
C'est, calmez-vous, j'ai un métier. Vous êtes là si j'ai compris pour les noces de la fille de Garou. Du coup je me suis fait baumer pour que je trouve ça chelou. Et apparemment ça a lieu à la Scala, un ancien cinéma porno, un drôle de choix. Scala, salle danse, fête Porta Martin El Rayo. La police sirène branchée contre le papier. On se calme là, mais quand tu rentres, magique devient la soirée. Réfléchis, faut se décider. Ah bah y'a Torreton. Oh Torreton, comme ta bouche.
Gênant.
Est immense.
C'est très gênant.
Quand tu souris, c'est une tuerie. La pièce prend vie. Au beau marché, aime aussi. Encore une fois, où c'est toi le roi. Je suis fan de Philippe, mais je vous croyais gaucho. Du coup, j'ai été surpris que vous soyez dans le Figaro. Vous êtes notre invité, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous, avec, je me rappelle plus qui, la bande originale.
Oh là. Qui a osé les Torreton Flingueurs.
Et Torreton Ninja.
Ouais, Torreton Ninja, mais je voulais même pas le souligner tellement j'avais honte pour lui.
Heureusement que c'est court, hein.
Oui.
Et demain, il sera Seiyu Kusan, superbe salle, et le 1er avril, aux Folies Bergères, Ol de Laf, bien sûr.
Ah, voilà, après la Scala, les Folies Bergères, très bien.
Exactement.
Le tour des salles parisiennes. Cette Scala, donc, vous accueille depuis le 6 septembre, avec, aux côtés de vous, Marie Vial, Éric Bougnon, en alternance avec Pascal Vanson, Gretel de Lattre, Salomé Diesny Melien, j'espère ne pas avoir abîmé, Annie Mercier, Jean-Jacques Moreau, Grégoire Sterman, Antoine Prudhomme de la Boussinière et Jean-Yves Rouen, avec cette mise en scène qui est signée par Léna Bréban. Qu'a-t-elle apporté? Comment avez-vous travaillé ensemble sur la mise en scène? Comment redonner un souffle nouveau à ce mariage?
Et est-ce qu'il a besoin d'un souffle nouveau?
Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, en cherchant pas à en donner un, justement, mais en étant fidèle à ce qu'on a ressenti quand on a eu envie de faire ça, c'est-à-dire on a été frappé de voir que l'actualité de cette pièce en fait était toujours là, présente. Ça commence par une femme qui dit à son presque mari, non, je ne veux pas de cette pièce parce que quand t'es pas là, le comte me harcèle.
Je ne veux pas de cette chambre.
Voilà
cette chambre qui se trouve entre tous les deux sont les valets des comtes et comtesses.
Chacun s'occupant de qui du maître, qui de la maîtresse.
Voilà. Et ça commence
très actuel
comme ça.
Avec le droit de cuissage, en fait, c'est quand même de ça dont il est question.
Exactement. Et puis après, il y a tout le discours politique de Beaumarchais sur une société de classe, sur le fait pourquoi ce monologue, en fait, qui vient comme ça à l'acte 5, qui est énorme, qui arrive comme une sorte de gros pavé textuel, et en fait, c'est bah, c'est une déclaration de guerre de Beaumarchais à son époque. Mmh. Et de dire, si on n'est pas noble, on n'arrivera à rien. C'est même pas que l'ascenseur social est en panne, c'est qu'il n'y en a pas. Mmh. Et que c'est un escalier vermoulu.
Et c'est en ça que la pièce, elle est puissante, parce qu'on aurait très bien pu se contenter d'une résolution, d'une pièce de théâtre classique, ils se marient, ils sont heureux, ils ont réussi à déjouer les embûches. Non, il consacre dans cette pièce un temps tellement fort à son personnage principal, à qui il laisse la parole. C'est ça qui est très très puissant chez Beaumarchais.
Et pas que pour Figaro, parce que Marceline, tout d'un coup, quand elle découvre que Figaro est son fils, parce que ça aussi c'est un truc que j'ai dit à Léna Bréban, je lui dis, moi j'ai pas envie de jouer Figaro, j'ai envie de jouer Emmanuel. Et parce que c'est le vrai nom de Figaro. Et j'ai plein de camarades, acteurs, actrices, en leur disant comment s'appelle Figaro, et on me disait, bah t'es con, Figaro en fait. Mm-hmm. Mais non, personne sait qu'il s'appelle Emmanuel. Et je voulais jouer ce vrai bonhomme-là. Et prendre au pied de la lettre ce que dit Beaumarchais sur lui, son CV. Eh ben, quiconque a vécu ça, même la moitié, je lui tire mon chapeau. Il a été embastillé, il a été menacé par des intégristes, il a été mis au pilori, il a été censuré, il a été enfant volé, élevé par des bandits, il s'est fait tout seul, il a appris à lire, à écrire tout seul, il a étudié la chirurgie, la pharmacie, et il a fait plein de métiers, et finalement le seul qui lui procurait un peu de plaisir simple de la vie, c'est de raser les gens, en fait. C'est une vie... hyper émouvante, résiliente, et j'avais envie de jouer ça, moi. Et quand Marceline apprend que c'est son fils, et que finalement l'homme qui est censé être son père, Bartolo, ne veut pas du tout entendre parler de ce fils et de se remarier avec, se marier avec Marceline.
D'autant qu'ils avaient signé un contrat aussi, Marceline et
Figaro.
Pour se marier. Donc, il y a une parodie aussi de la justice, aussi de la manière dont la justice est.
Beaumarchais lui-même a tellement eu de déboires avec la justice il s'est un peu régalé, avec le personnage du conseiller, ça c'est sûr. Mais là, tout d'un coup, Marceline sort un long texte sur la condition des femmes, et c'est un des plus beaux textes sur la condition des femmes, et écrit par un homme, il y a 250 ans.
J'allais rappeler la date à laquelle tout ça a été écrit. Ouais. 250 ans.
Ouais.
Quand vous l'interprétez, quand vous le vivez, parce que c'est une comédie, ça va extrêmement vite. Physiquement, c'est éprouvant aussi.
Je confirme.
J'imagine. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça demande une préparation, parce que on parle des préparations des acteurs pour les films d'action. On pense pas, parce que les films d'action, ils sont tournés sur plusieurs semaines à raison de quelques minutes par jour. Là, c'est d'une densité incroyable pendant 2 heures sur scène, où ça court, où les portes claquent, où il y a des entrées, des sorties, où il y a un rythme effréné.
On change les décors aussi, nous-mêmes. Ouais. Mais pas de préparation. Je trouve que la seule préparation, c'est d'habituer son cerveau à dire ces mots-là. Et du coup, quand c'est en place, dans la tête, quand on comprend ce qu'on dit, le corps aussi se donne les moyens. En fait, je dis souvent ça, c'est mon sport, le théâtre. Moi, je suis sur scène tout le temps. Je sais pas, je fais au moins plus d'une centaine de représentations par an.
C'est votre jogging, quoi.
Depuis 40 ans. Donc, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est mon sport. Et... c'est comme pour la voix, comme pour le... Bien sûr, on peut faire des exercices, mais j'ai envie de dire, faut faire du sport pour aimer, si on aime ça. Mais faut pas faire du sport pour faire du théâtre, non. Faut au contraire, c'est l'art de dire.
Alors, si vous êtes attaché au texte avec Léna Bréban, qu'avez-vous apporté dans cette version qui puisse dire que c'est la version 2025, entre guillemets, votre version?
En tout cas, moi, c'est ma version. C'est parce que j'ai épousé celle de Léna Bréban, et c'est une vraie rencontre professionnelle. Moi, c'est ce que je lui ai dit plusieurs fois, et je lui ai écrit, mais c'est un choc pour moi de travailler avec elle. C'est la première fois qu'il y a une symbiose comme ça. Il y a eu des belles rencontres, vraiment. Je suis pas en train de dire que j'ai rien fait avant.
De dénigrer le passé, oui.
Non.
Expliquez-nous quoi.
Parce que c'est une comédienne qui a l'art du plateau, une science. Quand elle dit quelque chose à quelqu'un, elle sait le faire et elle l'a fait.
Là, vous parlez des rapports humains ou des idées, de la manière de le faire? C'est la manière, c'est le fond ou la forme?
Les deux, mon commandant. c'est vraiment les deux. Et puis, c'est un rapport direct, simple. Elle est chanchichi, elle est tout en étant respectueuse des gens, etc. On va vite. Bon, on est pressé par le temps, mais de toute façon, le temps, parfois, est un ennemi au théâtre. Il faut être... il faut ressentir ce côté un petit peu charrette, quoi.
Il faut être dans le jaillissement.
Ouais.
Et puis
c'est elle est d'une efficacité redoutable en ce qui concerne justement l'énergie, comment ça circule. Vous parliez des portes qui claquent, etc. Oui, il y a des codes comme ça du théâtre. Il faut que ça aille vite, etc. Et c'est un peu la signature de tous ces spectacles. Mais elle est profonde.
Ça repose sur des effets.
Et c'est jamais au sacrifice de ce que disent les personnages et de l'intrigue
et
de la pièce.
Et du propos. Mais globalement, quand même, on rit. Même si le sujet est profond et donne à réfléchir. Il y a des effets, notamment lorsque trois personnages répètent la même réplique pour faire un effet d'écho et faire la vanne de « il y a de l'écho ici ». Si tout le monde n'est pas dans le tempo, ça ne fonctionne absolument pas. Donc
pardonnez-moi,
mais
c'est chiant lié à régler.
Oui,
quoi.
Oui, c'est vraiment... Non, mais c'est vrai.
Non, mais c'est un enfer. Oui, effectivement. Il faut qu'on soit tous là, tous au même moment, tous au même endroit et avec la même énergie. Ça, c'est sûr. Mais ça se fait, la preuve. Mais c'est vrai qu'il y a
c'est
des moments
musique.
Ingrats en répétition.
Ouais, ouais. Oui. Ça fait 11 ans qu'on essaye, on n'y arrive toujours pas.
Ça se passe à la Scala.
Ouais. Non, Daniel n'est pas en place. Hein. Moi, je fais l'écho et tu n'étais pas là.
Mais t'as pas fait le tempo, gars.
Franchement, Daniel, réveille-toi.
Voici Lisa Delmoitié. Parce que alors, vous n'auriez pas souligné, vous, les mêmes sujets que ce qu'il y a dans le mariage
de Figaro? Non, j'aurais fait mieux que Beaumarchais.
Ah bon, d'accord.
Parfois, ce rôle est quand même... Bon.
Ouais,
oui. Non. L'ancien régime, quelle sombre période. Domination des puissances sur les moins fortunés, règne du patriarcat, droit de cuissage, Dieu merci, tout cela est derrière nous. Pas vrai? MeToo, c'est juste une façon mignonne d'appeler son chat. Alors, le droit de cuissage est au cœur de la pièce Le mariage de Figaro, dont vous êtes le héros, Philippe Torreton. On l'a dit, l'histoire de ce concierge qui veut épouser sa bien-aimée, mais pas de bol. Le comte voudrait exercer son droit de cuissage sur la bien-aimée en question. Et la vie de la bien-aimée dans tout ça? Mais on s'en fout, c'est une femme et nous les femmes on est débiles. Merci d'avoir montré le chemin du studio. Le laf, je vais encore faire ma chronique devant la machine à café. Alors le droit de cuissage, on appelait ça aussi le droit de jambage, figurez-vous, parce que parfois il s'agissait juste de permettre au seigneur de passer une jambe dans le lit de la femme de son servant. Passer sa jambe dans le lit. Wesh les mecs, je veux bien vous défendre, mais vous avez des drôles de délire quand même. C'est quoi ça encore, passer sa jambe dans le lit? En quoi c'est agréable? Je peux comprendre passer sa jambe hors du lit, ça je le fais tous les étés. C'est magique hein, ce petit mouvement. Il fait 40 degrés dans la chambre, mais hop, la rotule hors du drap et t'as l'impression de dormir en chambre froide. Avec un couple marié depuis 40 ans. Enfin bref, c'est froid quoi. Écoutez, j'aime pas faire dans les clichés, mais soyons honnêtes, plus un fétiche est précis et chelou, plus il y a de chances qu'il vienne d'un mec quand même. Moi au lit, j'aime bien prendre du plaisir. Voilà. Mais tu demandes à un mec, il va dire moi j'aime bien quand la fille me lèche le coude en chantant du Nana Mouskouri.
Oh, quoi ?
Je crois que si les hommes ont souvent des désirs sexuels plus précis, du style glisser sa jambe, c'est lié à la pyramide des besoins de Maslow. Vous voyez cette idée que tu dois d'abord satisfaire tes besoins physiologiques, puis de sécurité, et enfin d'accomplissement de soi. En gros, si t'as pas de maison, tu ne rêves pas de te reconvertir dans la poterie. T'es surtout concentré sur avoir une maison. Mais je juge pas la poterie, hein, Emma. Tu gères ton burn-out comme tu veux. Ben, les mecs, c'est pareil. Au lit, je hisse très souvent. Hein, donc, c'est bon, besoin primaire rempli, on peut commencer à se dire, tiens, mais si elle m'appelait papa? Bref, le droit de cuissage, c'est aussi beaucoup plus violent que juste passer une jambe dans le lit, mais en me renseignant, j'ai appris qu'on n'est pas sûr de l'existence de ce droit, qui serait un mythe colporté pour discréditer l'ancien régime. Et sans doute, je veux dire, l'histoire nous prouve qu'un homme ne ferait jamais ça. Mais que ça existait ou pas à l'époque, ce qui est sûr, c'est que ça existe aujourd'hui dans une forme contemporaine. Hein, c'est plus un seigneur qui couche avec la femme d'un cerf. Le serviteur, hein, pas l'animal. Ça, c'est le droit de... Mais qu'est-ce que tu fous, là? C'est dégueulasse. Non, de nos jours, c'est le droit d'un homme à exiger des faveurs sexuelles à une femme en position hiérarchique inférieure. Et ce qui est fou, c'est que des hommes, aujourd'hui, invoquent un droit de cuissage historique pour justifier ça, alors que ça a peut-être même pas existé. Tu sais que t'es une merde quand t'es pire que l'ancien régime. La période, hein. Pas la faute, j'ai testé le régime paléo. Non, c'est la nouvelle excuse, ça. Monsieur, vous ne pouvez pas chier dans la rue. Oh, ça va, on le faisait à l'ancien régime. Ah, dans ce cas. Pas du tout, il y a des chiottes depuis le 15e siècle. Enfin bref. Comme quoi, une pièce de Beaumarchais, ça sent pas la poussière. Au contraire, ça parle de droit de cuissage, de quelques bien-nés qui accumulent les privilèges. Bref, que des thèmes qui parlent peut-être encore plus de notre époque que de l'ancien régime.
Bravo. Bravo. Merci. C'est vrai que ce rapport de domination, la question du consentement aussi est abordée dans le film. Non mais j'ai vécu vraiment comme une histoire. Ça va tellement vite. Mmh. On voit une réalisation plus qu'une mise en scène d'ailleurs, avec les effets de lumière, de changement de décor, de la fraîcheur avec laquelle tout est joué et cette vision. Est-ce que vous êtes intéressé de savoir comment Beaumarchais a comment lui est venue l'idée, comment il a eu la vision de se dire mais quelle époque vit-on, pourquoi le consentement, pourquoi le droit de cuissage, pourquoi seulement les riches, profitez bien de votre richesse parce que vous avez tous les privilèges, les injustices, enfin il avait un recul incroyable.
Moi ce que je crois c'est que c'était dans l'air, toute cette façon déjà d'interroger. Oui, c'est pour ça qu'on a appelé le siècle des Lumières aussi, c'était dans les tuyaux je pense, interrogeons tout. L'existence de Dieu. Beaumarchais était fan de Voltaire. Il a voulu après rassembler tous les écrits de Voltaire. Enfin, il a dépensé beaucoup d'argent à ça. Et
c'est lui qui s'est occupé des droits d'auteur aussi.
Oui, on lui doit la SACD, hein, qui s'appelait pas comme ça à l'origine. Mais c'est, je pense que il avait compris aussi, comme Shakespeare, que l'humour est peut-être une arme la plus puissante que le texte premier degré,
pour faire
que
passer des idées.
Pour faire passer des idées. Bon, il s'y est un peu trompé parce qu'il a été quand même censuré. Donc, le côté un peu comme ça, vacherin, comédie, porte qui claque, etc. Il pensait pouvoir enrober ça, c'est pas passé. Je pense que c'est ça, c'était dans l'air de toute façon, et que Beaumarchais a eu une vie multiforme, protéiforme. Il a été artisan, il faisait de l'import-export, il a vendu des armes, il s'est
agent secret aussi.
Et il a été ses mésaventures judiciaires aussi ont été vraiment faisait la une des journaux, vraiment intéressé. Par exemple, Goethe a écrit sur Beaumarchais aussi. Sa vie était peut-être sûrement parmi d'autres, mais l'exemple d'une société coincée, quoi. Et son cas était symbolique de tous ces heurts, de toutes ces impasses. Quoi.
Léna dit quand même de Beaumarchais que c'était un homme multiple et complexe, filou et génial.
Oui. Ah oui, oui. Ah oui, il y a des aspects de lui. Il a voulu trafiquer de l'esclave aussi. Enfin, donc c'est pas.
Mais c'est ce qui est intéressant, c'est comment, d'où vient cette empathie pour les petits d'une certaine façon, parce qu'il pourrait se contenter de rester à hauteur de sa classe. Il pourrait ne pas avoir envie justement de célébrer ces femmes, célébrer ce personnage de serviteur de Figaro. Qu'est-ce qui fait qu'il s'est mis à ce niveau-là, parce que il n'était pas victime lui de cette injustice-là dans son quotidien.
En partie, oui, quand même.
Ah bon?
Il a subi. Ah bah oui, il a subi. Il a été arrêté, il a été en prison, il a eu des procès, enfin, il a eu le malheur, par exemple, d'avoir épousé deux femmes qui sont mortes, alors deux femmes fortunées, et l'une meurt un an après le mariage, l'autre deux ans après. Donc il a été accusé de meurtre. Alors aujourd'hui encore, moi je pense que non, mais après tout, je ne suis pas expert judiciaire en 18e siècle, mais...
C'est un cold case, nous allons rouvrir l'affaire au marché.
Mais imaginez l'innocence d'un mari qui perd sa femme et qui est accusé du meurtre de sa femme. C'est d'une violence inouïe quand on...
Une fois, mais deux fois.
Et deux fois de suite.
Dans le même escalier.
Ouais. Non, mais, ouais. C'est vrai que c'est louche.
Ouais. Avec de la peau sous les ongles.
Il s'est suicidé de quatre coups de couteau dans le dos. Ouais.
Mais ce qui est dénoncé au début de cette pièce, c'est aussi l'absence de loyauté du maître pour son serviteur. Parce que cette folle journée, ce mariage intervient après une pièce déjà préexistante.
Le barbier de Séville.
Où il a réussi à l'arranger, à le sauver, à favoriser son amour et son union.
Le comte Alma Viva doit son épouse qu'il adorait à Figaro, grâce à la ruse. Et je l'ai joué, moi, il y a longtemps, à la Comédie Française, dans une mise en scène de Jean-Luc Boutet. Et c'était vraiment ça. C'est grâce, il a drogué tout le monde dans la maison de Bartolo, y compris la mule. Tout le monde était sous sédatif et tout. Et comme ça, ça a retardé le moment où le notaire pouvait venir célébrer le mariage, enfin officialiser le mariage. Et donc, il lui doit son épouse. Et quelques années plus tard, alors nous, comme on est, ça vous a pas échappé, j'ai pas l'âge du rôle théorique. Mais on a voulu exprès faire une génération. Avec Marie Vial, Grégoire Serdman et puis Gretel Delattre, on est dans une tranche d'âge générationnelle. Parce que ça aggrave tout. C'est-à-dire que la trahison.
Sincèrement, pour l'avoir vu, on se pose pas la question.
Non, on s'en fout. Ouais. Mais nous, ça nous aidait dans la tête aussi de se dire que c'était important que ce soit la même génération. Après, qu'on ait l'âge pile poil du rôle, j'ai discuté avec un acteur qui l'a joué quand il avait l'âge du rôle, et il me dit j'ai rien compris.
Est-ce que c'est vrai que c'est ce monologue que vous aviez choisi pour votre première entretien ou en tout cas
au cours Simon, j'avais 17 ans.
Et vous avez compris?
Non, mais je le connaissais par cœur. Et bon, voilà, j'avais été pris, mais après j'ai appris que tout le monde était pris parce que c'est un cours privé payant. Vous ne pouvez pas être très exigeant. Donc, mais voilà, mais ce texte m'est resté, voilà, tout le temps.
Encore les nantis qui ont ces privilèges, c'est ça. C'est ça. La phrase, c'est ça, profitez bien de.
À la fin, il dit que se réjouissent les bien nantis, mais je le fais comme une menace, en fait. Oui, parce que ça va pas tarder à péter, en fait.
C'est ça, profitez-en vite, parce que ça va pas tarder à péter.
Ouais, exactement.
Cette pièce est drôle, intelligente, elle est essentielle, et puis elle est extrêmement moderne pour son écriture, vivante pour sa mise en scène par Léna Weban, et on sent cette notion de troupe et de partage qui est extrêmement joyeuse et agréable.
Moi, je suis trop content, par exemple, Jean-Yves Rohan qui fait Antonio, la seule fois où on a joué ensemble, c'était dans Capitaine Conan de Bertrand Tavernier. Il faisait Rouzic, mon aide de camp. Et se retrouver 30 ans après, c'est vachement émouvant. Ouais.
C'est à la Scala et mise en scène par Léna Brébant, donc et avec Philippe Torreton. On en parle jusqu'à 12h30. Mais d'abord, voici Julien Santini.
Merci Nagui, merci infiniment. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente chronique.
Merci, à bientôt.
Il y a peu, oui, moi aussi je manie la langue, monsieur Torreton, mais cessez de m'interrompre, Philippe. Donc je disais, ou du moins je tentais de le dire, si je n'étais pas interrompu en permanence, vous le voyez, il est fou, faut croire que je dérange. Il y a peu donc, j'étais à une terrasse de café avec un ami qui travaille dans les réseaux sociaux et qui voulait me donner des conseils pour augmenter mon audience.
Oula.
Alors exactement, je lui ai rétorqué, mais c'est seulement à qui tu t'adresses. Julien Santini, a.k.a. la terreur des billetteries, la gaieté Montparnasse. Ça te parle ? En vrai, je me suis efforcé d'être moins méprisant car le pauvre ami est porteur d'un handicap. Et invisible en plus. Double peine. Me proposer d'augmenter mon audience et vendre plus. Quelle toupette ! Je décline alors sa proposition. C'est vrai, entre nous, j'ai ce luxe de ne pas en avoir besoin. J'ai même pas regardé les chiffres de cet été tellement j'en suis sûr, mais c'est factuel. Toutes les semaines, je suis à l'antenne de France Inter. Toutes les semaines, donc au niveau des billetteries, on parlait de la SACD, je peux vous le dire, ça palpe, ça palpe, ça palpe. Dans un élan de générosité, j'accepte pour vérification de regarder mes chiffres de vente à la gaieté en date du 10 septembre. Et alors, je décide d'écouter ses conseils. Oui. Merci beaucoup. La moquerie, tant qu'il y a des rires, je m'en branle. Oui, au fait, il ne vous aura pas échappé, j'ai répété deux fois la gaieté Montparnasse, c'est fait exprès. C'est parce que la dernière fois, Daniel Morin, ici présent, a oublié de dire ma date à la gaieté ou ma date à Calvi, je sais plus. Bref, il a oublié. Le peu de choses qu'il a à faire, il oublie. Oh Daniel, on n'a pas besoin que de ton cynisme, on a aussi besoin de ta précision, merde. Revenons à mon ami différent, même si pour être honnête, et je vous dois l'honnêteté, et toi Lisa, tu me dois 20 balles. Piège! Et regardez, ils se font prendre, Nagui et Leïla. J'ai fait exactement la même vanne la semaine dernière et vous vous en êtes même pas rendu compte. Pourquoi? Parce que parfois, vous scrollez honteusement sur votre téléphone pendant que je parle! Ça va pas. Respectez-moi, merde! Nom de Dieu! Excusez-moi, j'étais perdu. Pendant que je parle! Respectez-moi, nom de Dieu! Ou je repars dans mon village en Corse. Tox, oui, c'est le nom de mon village en Corse. Le seul village en Corse qui a un nom français, c'est pour Bibi. Oh Dio mio! Si tu me donnes à vivre cette épreuve, c'est parce que tu connais la valeur de mon cœur. Pour Camiseria, Philippe, avec moi, et vive en vous le gorsou, Michael Jacomet, ou Babu Japatria. J'étais tout seul, Philippe. Bref, je vous disais que la discussion de mon ami n'est pas comme les autres.
C'est la fin de semaine.
Leïla dit que je le fatigue, mais en général, c'est ce qu'elle dit quand elle aime bien les gens. Je vous disais que la discussion de mon ami, pas comme les autres, ne m'intéressait pas du tout. D'autant plus que son rapport à l'hygiène bucco-dentaire est assez douteux, je trouve. C'est gratuit, c'est pas spécialement vrai en plus, mais ça fait la blague, comme on dit pour une chronique.
Non.
Il décide décide alors de me parler d'autre chose et innocemment me balance. Attends, mais t'as pas vu cette série en fait ? Alors soyons clairs, je me calme, je respire, je n'en peux plus des gens qui sortent des références à tout bout de champ. Ça existe, attention, hein. Mais c'est même pas qu'ils sortent des références. Moi j'accepte qu'on veuille me faire découvrir un film, un livre, un auteur, un peintre que je ne connais pas et qui gagne à être connu, ou qui gagne à ce que je le connaisse. Mais que je sente un vide abyssal, nous séparer parce que non, je n'ai pas vu cet inédit de Kurosawa, parce que c'est souvent des japonais. Eh bien moi là, je me rends compte que là c'est un peu raciste, donc je me recentre. Mais bref, vous avez compris, marre des donneurs de leçons. Philippe, marre des donneurs de leçons. Rapport à politique. Je suis désolé, mais ça me rend dingue. Et ce qui me rend dingue aussi, c'est notamment le cas des gens qui rentrent de vacances et qui nous les racontent en story. Ça va être pour ta gueule. Ce qui nous les raconte en story sur Instagram ou TikTok. Les fameux récap. T'en as fait un hier, c'est honteux, Emma. Mon community manager m'a proposé d'en faire. D'ailleurs, je lui ai dit, dis donc, Patrick, tu veux que je t'ôte la vie ou quoi ? Il n'a pas insisté. Par contre, qu'est-ce que j'en ai bouffé de ces récaps ? Alors, je déteste ça, mais putain, qu'est-ce que je les mate ? Parce que n'ayant que peu de vie sociale, je passe beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux. Ce qui fait dire à mon meilleur ami mardi dernier, Monsieur Santini, 12 heures par jour. C'est quand même un petit peu trop, même votre téléphone vous le dit. Ce à quoi je lui réponds, non, mais de quoi je me mêle ? C'est qui paye, gros ? Bref, je n'en peux plus. Le récap, Philippe, consiste à mettre 10 photos qui se succèdent les unes aux autres pour nous narrer vos exploits du mois. Et donc, c'est formidable. On vous voit, vous avez eu un été fantastique, vous êtes entouré d'amis qui vous aiment et que vous aimez, vous êtes un peu loco loco à faire de la night avec cette bouteille qui traîne sur le trottoir. J'en connais qui ont fait la fête. Mais arrêtez de vouloir nous balancer votre bonheur à la gueule. Soyez médiocres, comme la plupart des Françaises et des Français le sont, et dont je fais partie, dont j'espère même être un premier de cordée, il n'y a que ça de vrai. Moi, je suis en face de Leïla et de Nagui toutes les semaines. Est-ce que je vois des têtes de vainqueurs ? Non. Je vois des hommes et des femmes avec leurs failles, avec leurs forces, mais surtout avec leurs failles. Je me suis arrêté là dans la phrase parce que j'avais pas de chute. Il est donc temps de vous rappeler que je m'appelle Julien Santini et je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci Julien Santini. Il paraît Daniel qui est à la gaieté.
Julien Santini, ne loupez pas, ce soir il est à Brest et ou demain à Calvi, je ne sais pas, choisissez.
Sois gentil avec lui, t'as pas le droit. Daniel,
il a besoin là.
J'en choisis un, demain à Calvi. T'es sûr?
Je dirais pas pour la Gaieté Montparnasse. Que c'est à partir du 3 octobre.
Merci Daniel.
Voilà.
Je t'aime.
Nous allons évoquer Beaumarchais. Un illustre inconnu, c'est la question que l'on se pose. Christian Vasselin est notre invité, il est écrivain, auteur d'une biographie sur Beaumarchais. Et on va justement partir dans les méandres de sa vie. Filou est génial, j'adore cette phrase dite par Léna Brébant qui met en scène donc à la Scala, Philippe Torreton, dans ce mariage de Figaro. Mais la musique, alors il y a la musique qui ouvre avec ses roulements de tambour. La musique dans la vie de Philippe Torreton va commencer en 77. Philippe, vous écoutiez ?
Tu la tiens dans ta main.
Bah oui.
Tu as les donateurs juste à côté du cœur. La peau humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin.
Cette chanson qui malheureusement a changé de sens entre ton cœur, l'amour, cette bombe que tu as en toi qui peut exploser, et après les attentats qui a fait que d'ailleurs Jean-Louis s'interdisait de reprendre cette chanson, et puis après il a eu bien raison en se disant que l'art devait prendre le dessus,
ouais, bien sûr,
et l'interpréter à nouveau. Cette bombe humaine, elle résonne, vous la connaissez par cœur, ça faisait partie de ce que
tout
vous écoutiez dans les années 70, c'est
tout
vrai
téléphone. Et c'est pour ça que la vie est merveilleuse, parce que il y a quelques temps, je m'étais installé à Fontenay-sous-Bois, et il y a un monsieur par derrière qui me dit je vous aime beaucoup, et je promenais une échelle, et c'était Richard Kolinka, et je lui dis mais
le batteur au téléphone,
dément. Ouais. C'est dément. Et on est devenus potes et on a fait un spectacle ensemble.
Ah ouais, enfin, deux spectacles ensemble. Vous avez même fait beaucoup de stories sur Instagram aussi.
Oui, dans le confinement.
Ouais. Ah ouais, n'arrêtez pas.
Et c'était dingue, quoi. Mon groupe préféré, le batteur
rencontre
que j'adorais avec ses grands bras comme ça. Plein.
Sa chorégraphie.
C'est un des batteurs les plus beaux du monde.
Carrément,
on est d'accord.
Absolument.
Et voilà. C'était mon voisin.
On est en 77, Leïla.
Et il est question de Désir, de Monsieur Désir.
Ah oui.
Voilà, c'est un vrai monsieur, c'est un prof de français qui vous invite, qui vous incite, qui incite vos parents en tout cas à vous inscrire au cours de théâtre. Il y a toujours des profs comme ça qui sont un peu les éléments déclencheurs. On en entend souvent parler dans cette émission. émission. Il y a des profs aussi qui sont un peu moins joyeux. Je pense à un descendant de Beaumarchais que vous avez eu en cours.
Oui,
mais non.
Mais ouais. Oui, oui, oui. Et je m'ennuyais beaucoup et j'ai eu le tort de dire ça dans une interview. Et à l'époque, j'étais à la Comédie Française et j'ai reçu une lettre d'excuse de ce monsieur charmant.
Oh.
Ouais, qui m'a dit je suis désolé de vous avoir ennuyé et tout ça.
Mais non.
Sachez que j'étais mal en point.
Oh ouais.
Mais
parce que vous avez shooté son nom en plus.
Non.
Vous aviez dit
oui,
son nom.
Oui, que c'était un descendant de Beaumarchais.
Okay,
quoi,
oui,
et j'avais été un peu voilà fougue de la jeunesse et je m'en voulais. Et il m'a répondu de façon très élégante. Donc c'était et puis on s'est vu et
c'est réparé.
Oui, oui, oui. Et Monsieur Désir, oui, bah je crois que la dernière fois que je suis venu dans cette émission, c'était pour un livre après la mort malheureusement de Samuel Paty. Il y avait eu un livre d'écrivain. On a écrit notre plus belle lettre, un plus beau souvenir de professeur. Et j'étais venu là et j'avais écrit sur Gérald Désir parce que c'était j'ai eu deux papas quoi en fait.
Et votre maman était prof?
Elle était instite, en maternelle, ouais.
Ça veut dire qu'à la maison il y avait la même rigueur qu'à l'école, c'était ambiance fais pas ci fais pas ça ou c'était plus
c'était franchement mes parents étaient chouettes, il y avait on se faisait engueuler, mais parce que notre chambre était en bordel, etc.
Enfin,
logique, enfin, il n'y avait rien de...
La vie, quoi.
La vie, ouais.
Pas d'injustice.
En 80.
Non, si, une fois, mon doudou a disparu.
Quoi ?
J'avais un éléphant Elmer, en tissu écossais, et je le trouvais plus, et bah, il était dans la salle de classe de ma mère, qui avait estimé que j'avais plus l'âge de ça, et que les petits-enfants qu'elle avait devaient en profiter. Et mon doudou, il a disparu.
Ah,
du coup,
wow.
je suis en quête de doudou.
On sent la blessure, là.
Il y a pire que de confisquer un doudou, c'est le laver.
Non.
Tu laves un doudou,
c'est obligé.
Mais parfois c'est obligé, oui.
Mais ça enlève tout.
Ah bah oui, mais enfin,
ça enlève tout, ça enlève l'odeur, ça enlève la saleté, c'est un doudou.
Oui, mais c'est fait pour tout enlever.
En 87. Philippe Toretto, écoutez, Boys Don't Cry. Les garçons ne pleurent pas.
Et vous entrez au Conservatoire National d'Art Dramatique à Paris. Vous débarquez à Paris aussi, tout simplement.
Ah, mais oui.
Découverte de la capitale.
Oui.
C'est quoi les premières images de Paris pour vous?
C'est pour ça que ça me fait marrer quand on dit que Paris est sale, etc. Mais je trouve ça dégueulasse. Et Paris est beaucoup plus joli maintenant que quand je suis rentré. Et puis bon, alors c'est peut-être l'affolement du provincial qui sait pas comment se repérer, etc. Qui comprend rien. On me parlait de vitesse, de Chéreau. Moi, quand Vitesse m'a engagé au Français, il me dit je vous connais pas, mais on va faire un bout de chemin ensemble. Et je dis moi non plus, je vous connais pas. Et il a fait on va apprendre à se connaître. Mais c'était chouette, on avait un rapport simple.
Et trois ans plus tard, vous entrez à la Comédie Française comme pensionnaire. Ouais. Vous devenez le 489e sociétaire en 94.
J'ai adoré ce chiffre.
C'est vrai, pourquoi?
C'est à la fois beaucoup et très peu. Le premier, c'est Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière.
Ouais.
Et 489 après, c'est moi.
Ouais.
C'est proche, finalement.
Mais c'est proche, quand même. C'est incroyable. On est moins de 500. Alors maintenant, ils ont dépassé 500. Je crois que le 500e, c'est... ça va me revenir. Raffaelli. Voilà. Okay. Raffaelli, qui était le 500e, pile.
On a une plaque, on a un numéro inscrit quelque part. C'est juste un numéro dans la tête ou
non? C'est un numéro.
Oui, mais physiquement, il est où ce numéro?
489.
Il est sur le.
Sur une carte.
Sur un contrat. Non, il n'y a pas de carte. Et on reçoit le livre de Lagrange qui tenait toutes les comptes que j'ai offert après à un monsieur qui a disparu mais qui a tellement aimé le théâtre, qui est Philippe Tesson. Je lui ai donné mon registre de Lagrange.
D'accord. Et vous évoquez donc le numéro 500, Bruno Raffaelli.
Bruno Raffaelli, merci. Ouais.
En 92, encore du rock, vous écoutiez Nirvana. Vous écoutez la musique à quelle occasion, Philippe Toretto?
J'ai écouté beaucoup avant de jouer. Chaque spectacle avait... il fallait un diapason.
Sa bande originale, c'est ça, son
exactement,
humeur.
Alors, je me suis beaucoup servi de La Mano Negra, de Brel. Brel, je trouve que c'est un joli diapason. Quand on va monter sur scène, on se dit, c'est à ce niveau-là ou ça sert à rien. Là. Et donc, je parle de l'énergie, bien sûr,
et
que donnent ces gens.
Nirvana,
et Nirvana,
c'était pour le malade imaginaire?
Non, Nirvana, c'est un peu tout le temps parce que ça me... C'est notre... c'est notre blues à nous, quoi. Enfin, c'est, il y a quelque chose. J'étais content d'aller à Seattle après, bien des années après sa mort. Mais, c'est, aïe, qu'est-ce qui m'a marqué, ce mec-là? C'est sa voix, ce cri rauque comme ça, hein, qui, c'est
le cri
de notre époque.
Ouais, ça vous touche.
Ouais, c'est une 80... sorte d'impuissance comme ça face au monde.
92, ouais. Laïla, que se passait-il dans la vie de Philippe Torreton ?
Vous êtes sur scène dans Le Malade Imaginaire, mise en scène par Gildas Bourdet, mmh. Et c'est là, en fait, que Bertrand Tavernier vous voit, demande à vous rencontrer pour vous confier plus tard ce rôle dans Le Capitaine Conan. Ouais.
Enfin, au début, c'était L627.
Oui, L627, ouais. Et plus tard, la collaboration a continué. C'était à un moment où vous n'aviez pas beaucoup tourné au cinéma.
Ah non, j'avais rien fait, quasiment. Enfin, ouais. J'avais 2 jours chez Pinotto, dans La Neige et le Feu, mais c'est tout. J'avais fait le premier film de Noémie Wlowski, Oublie-moi, et c'était aussi, j'avais fait un film d'Olivia Sayas. Et
en tout cas, c'est la curiosité de Tavernier qui fait que,
bah ouais.
Que Tavernier allait voir les acteurs.
Mais ce
au
qui
théâtre.
M'a plu, c'est que, alors j'avais un faux nez, j'avais des taches de rousseur, j'avais un palmier sur la tête, c'est un parcours de gag et tout, je faisais un saut de 6 mètres de l'eau en glissade comme ça, j'arrivais presque sur les genoux des gens au premier rang. Et ils pensent à moi pour jouer un flic.
Ouais.
Ben, je me suis dit, mais, ah oui, donc, parce que quand t'as pas fait de cinéma, tu te dis, mais comme. Les interviews en général sont toujours, les gens se font mousser, ils disent bah j'étais le personnage, il m'a vu, il m'a dit oh, c'est toi et tout, et vraiment l'histoire du cinéma est jalonnée de ces trucs
que vous
qui
lui
sont
avez demandé
complètement faux en fait.
Vous lui avez demandé pourquoi?
Mais oui. Et il me dit bah parce que tu m'as fait marrer, voilà. Et que je me dis un acteur qui est capable de faire ça, il est capable de faire ça. Donc puis avec toi on va passer du bon temps, ça va être, tu vois. Alors le rôle était un peu je faisais looping, dit la belette et tout dans les 627 donc c'est pas un mec sinistre, mais c'est pas un parcours de gag du tout. Mais et ça j'ai adoré ça, que d'avoir une vision comme ça d'aimer l'acteur, la potentialité plutôt que l'adéquation au rôle. Un rôle c'est un rôle, ça existe
pas. Faire d'imagination quoi, avoir de l'imagination quand on est réalisateur et être curieux.
Ouais, de faire confiance au talent.
En 2008 Torreton, vous écoutiez.
Président de la République.
L'excellent Bachung.
Ah là là. Je l'ai rencontré sur un film de Patrice Lecomte, Félix et Lola, avec Charlotte Gainsbourg. Il avait quelques jours de tournage avec nous. Et on était aussi timides l'un que l'autre.
Ouais, ce que j'allais dire.
Oh là là, ça m'avait
très
touché.
Timide.
Ah, très timide. Il était content d'être là. Et moi, j'étais tellement content qu'il soit là. Et on ne s'est pas dit grand-chose d'ailleurs, mais c'était. On a vécu beaucoup de moments de silence comme ça, tous les deux, à attendre de tourner.
Président de la République, chanson politique, chanson engagée, pour souligner aussi l'engagement de Philippe Torreton.
Absolument, citoyen du monde, 2008, vous êtes conseiller de Paris, dans le 9e arrondissement, un mandat de 6 ans, au sein du groupe des socialistes et radicaux et apparentés, c'était ça un peu la famille. Pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure que vous allez continuer pendant 2 ans et demi? Vous avez arrêté plutôt.
J'ai démissionné. Ouais. Bertrand Delanoë m'a appelé, il me dit écoute, je te lis régulièrement, je vois des interventions, etc. Je pense que tu es fait pour ça. Viens nous rejoindre et puis moi si tu veux, je te mets une place, voilà, sur une liste et puis et tente l'aventure. Ça va, mets les mains dans le cambouis, tu vas voir et tout. Et j'ai dit bah oui, d'accord, mais à condition, parce qu'il voulait. Il voulait que je sois dans un arrondissement que je connaissais pas. J'ai dit, mais si en plus je suis parachuté, moi je vais être dans le 9e, j'habitais dans le 9e et tout ça. Il m'a dit, bon, d'accord, bon, c'est un peu chiant, mais on va essayer. Et c'est là que j'ai rencontré un merveilleux maire qui était Jacques Bravo, qui est mort depuis, mais il était, c'était formidable, c'était un compagnonnage. Et puis après, j'ai démissionné parce que l'emploi du temps était compliqué. J'étais prof au conservatoire, j'étais en tournage, en tournée et conseiller de Paris. Et du coup, j'étais souvent absent, et les absences ont commencé à être pointées du doigt.
Vous allez vous mêler des prochaines élections ?
Non.
À Paris ?
Non, parce que j'ai changé mon rapport à ça. Je trouve que ça m'a causé beaucoup plus de tort que... Alors, je regrette rien, vraiment, absolument pas. Et les 2 ans et demi passés à l'hôtel de ville, c'était des moments où j'ai pu me rendre compte qu'il y a des gens, à droite comme à gauche, qui sont vraiment sérieux, qui bossent bien, qui connaissent les dossiers. Il y a des foutus glandeurs aussi, à droite comme à gauche.
Comme dans tous les métiers.
Moi, quand le tous pourri, ça m'énerve vraiment, parce que ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui ont ça en eux. Alors parfois, ces gens-là n'ont pas les mêmes idées, les mêmes solutions que moi. Et alors, ça n'empêche qu'ils sont hyper sérieux et qu'ils connaissent les dossiers, etc.
Qu'est-ce que ça vous a apporté en mal, puisque vous aviez l'air de dire que c'était...
C'est ce fameux mot d'artiste engagé qui est presque un crachat à la gueule, en fait. Et ça aurait pu être quelque chose de beau. Moi, si j'ai aimé Simone Signoret, c'est qu'elle était engagée. Si j'ai aimé Gérard Philippe, qui était vraiment proche du Parti communiste, etc. Jean Ferrat, moi, quand j'écoute ma France, je pleure tout le temps. Et j'ai écrit une lettre à Jean il y a quelques années, dont on me parle encore et tout, mais... Je suis bercé par ces gens-là qui ont Daniel Balavoine qui se met à gueuler contre Mitterrand sur un plateau de télé. Je suis baigné de ça. Tous les concerts caritatifs qui ont eu lieu, ça. Alors c'est peut-être un peu naïf et cucul à praloche, mais c'était. Il y a quelques. Oui, c'est beau quand même. Les artistes, ils pourraient rester, gagner leur pognon, etc. De faire ça, c'est pas mal. Et moi, le concert au Bangladesh avec les Beatles, George Harrison et tout, cet album-là, couleur ocre avec Ravi Shankar au milieu et tout ça, c'était un bijou pour moi chez moi cet album, et ça a bercé. Mais maintenant c'est devenu grande gueule, c'est devenu donneur de leçons, c'est devenu mais toi t'es un bobo, etc. C'est devenu tout ça,
un anti.
Et non, je trouve qu'un comédien a le droit de parler autant qu'un boulanger. Je vois pas pourquoi.
Les nantis sont au centre de cette pièce de Beaumarchais. On va parler avec Christian Vasselin qui nous a rejoint. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Écrivain,
bonjour.
Auteur de cette bio donc consacrée à Beaumarchais aux éditions Folio. Je reprenais la phrase, les adjectifs de Léna Brébant en disant qu'il était filou et génial.
Oui, c'est ce qu'on peut dire, effectivement. D'ailleurs, le mot Figaro est un mot qui a différentes étymologies possibles. Figaro, ça veut dire à la fois fils Caron, donc fils de Monsieur Caron, qui était le père de Beaumarchais, mais Figaro, c'est aussi, paraît-il, l'une des traductions du mot Picaro. Picaro qui veut dire en espagnol fripon, malandrin, etc., qui d'ailleurs a donné le titre d'un album d'Hergé, hein, Tintin et les Picaros. Donc, vous voyez, Figaro, c'est peut-être le nom qui résume le plus la personnalité et puis les différentes vies de Beaumarchais.
Alors justement, cette différente vie, tout à l'heure on a dit qu'il était aussi bien marchand d'armes que comme de lettres, évidemment, politique, soupçonné d'avoir peut-être tué...
Ses femmes
Non, il n'a tué personne, non, n'exagérons rien. Alors l'intérêt des crimes de Rafi...
Ah, c'est pas moi, monsieur, c'est Philippe, t'aurais ton...
Non, effectivement, non.
Et j'ai pas dit ça,
il a mis le coup sur deux personnes.
Il a été soupçonné de
oui,
ça,
oui,
ça
oui,
l'a blessé.
Ça fait partie de ce qu'on appelle des légendes urbaines, si vous voulez, voilà. Alors l'intérêt des crimes de Rafi de Beaumarchais, comme je l'ai fait, c'est que Beaumarchais, non seulement a vécu une vie, mais qu'il a vécu des vies à la fois parallèles et successives. Pierre Caron de Beaumarchais, c'est le fils d'un horloger, petit-fils également d'horloger, donc il a grandi dans ce monde un peu étrange, ce monde qui travaille à la fois sur le temps, l'horloge, et sur la mécanique. Donc le mot mécanique, le mot rouage est un mot essentiel dans la vie de Beaumarchais. Beaumarchais ensuite a étudié la harpe dans un collège, donc il était aussi musicien. Et puis un jour, il y a eu une espèce de polémique parce qu'il a réussi à résoudre un problème d'horlogie très très complexe, qui s'appelle le double échappement. Bon, je passe sur les détails. Et cette invention qu'il a faite quand il avait 20 ans, 21 ans, a été volée par un certain Lepaute, qui était l'horloger officiel du roi Louis XV. Donc polémique, etc. Beaumarchais avait 21 ans, il avait déjà le sens du combat, de la polémique, et il est sorti vainqueur de la polémique grâce à l'avis positif qu'a donné l'Académie des sciences. Et le bruit est arrivé aux oreilles de Louis XV, qui a été passionné par ce garçon très très vite, par sa personnalité. Il lui a commandé deux montres, une pour lui, le roi, une pour sa maîtresse, Madame de Pompadour, et il a également commandé au très jeune Pierre Caron une horloge pour l'une de ses filles. Donc, Beaumarchais a pu très très vite entrer dans la cour. Il est devenu professeur de harpe des filles de Louis XV, et puis ensuite espion, etc., etc. Ce qui fait qu'il a mené toute une série de carrières qu'il a conduit à être quasiment trafiquant d'armes sous la Révolution.
Leïla, tout à l'heure, posait la question que je vous repose. Pourquoi s'est-il intéressé aux petites gens, comme on dit? Pourquoi se moquait-il des nantis? Pourquoi il défend les femmes?
Est-ce qu'il s'est intéressé aux petites petites gens, il s'est intéressé aux petites gens parce qu'il était... Il y a un livre de Norbert Elias qui parle de Mozart comme étant un outsider. Beaumarchais, c'est un peu la même chose. Hein. C'est quelqu'un qui sort de la petite bourgeoisie et qui veut s'affirmer. Donc, il a conscience de ce qu'est la société, il a conscience de ce que sont les classes sociales. Et non pas je ne dirais pas qu'il prend parti pour les uns ou pour les autres, mais il a conscience de ce qu'est une société.
Oui, mais souvent, certains, après leur réussite, oublient d'où ils viennent, oublient
combat. Oui, mais la réussite de Beaumarchais est une réussite tardive, finalement. Comme il a mené différentes vies successives, il a constamment dû, à chaque fois, repartir de zéro. Et sa réussite d'auteur dramatique avec Le mariage de Figaro date de sa cinquantaine. Vous voyez, donc à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, il a mené différentes vies. Il est quasiment reparti de zéro à chaque fois pour enfin triompher en tant qu'auteur dramatique à l'âge de 52 ans avec Le mariage de Figaro.
Quelle est la phrase? Tout à l'heure, nous évoquions les citations de Beaumarchais qui sont utilisées et réutilisées. Quelle est celle qui résume le mieux son esprit, à votre avis?
C'est quasiment la plus célèbre. C'est « Sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur ». Mais il y a aussi cette autre réplique que j'aime beaucoup dans Le mariage de Figaro. À un certain moment, le comte se scandalise parce que Figaro prend du temps pour s'habiller. Il dit « Je ne comprends pas que dans ce château, les gens mettent beaucoup plus de temps que les maîtres pour s'habiller ». Figaro lui répond « C'est qu'ils n'ont pas de valet.
Pour les aider.
Voilà, donc c'est très, très drôle.
Et puis, il y a d'oser dire au comte, il dit, le conseiller en justice dit profession, il dit gentilhomme. Et le comte fait comment, gentilhomme? Il dit, si le ciel l'eût voulu, je serais fils d'un prince. Mais dire ça au XVIIIe siècle, c'est balèze quand même.
Les bien-nés, ouais. Faut pas oublier la chance que l'on a en fonction de l'endroit où l'on est. On n'est pas forcément tous égaux. Toujours d'actualité, Beaumarchais, extrêmement d'actualité, on s'en rend compte.
Je pense que tous les beaux textes, tous les grands textes sont toujours d'actualité. Échille, ouais. Sophocle, Molière, Shakespeare sont d'actualité.
Parce que ça repose sur la nature humaine,
parce que ça met en cause, ça met en scène des hommes, des femmes qui vivent, qui ont des passions, qui discutent, qui se battent, etc. Et si on joue aujourd'hui Le mariage de Figaro et Philippe Torreton, c'est que cette pièce est vraiment d'actualité, bien sûr.
Christian Vasselin, merci d'être venu à ce micro. C'est passionnant de vous écouter, de vous lire aux éditions Folio. Bonne journée. Un hommage rendu maintenant, celui d'Emma Beaujean.
Ah oui.
Bravo.
Bonjour tout le monde. Hello. Alors oui, tous les jours, je rends un hommage dans cette émission. Et aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à une des choses les plus importantes sur Terre et dans cette vie, c'est le sexe. Mais elle va parler de sexe à cette grandeur d'écoute avec nos impôts? Mais c'est pas vrai, mais elle va faire ça, cette connasse? Elle a même pas mis de soutif, pas mal les bzaises. Rendez-nous Meurice, putain, attendez, pousse. Stop. Alors déjà, on va arrêter avec ce truc de « c'est pire avec nos impôts ». Je n'en peux plus, d'accord? Regardez Hold de Laf. Et dites-moi s'il se gave d'argent public, s'il vous plaît, sérieusement. Il se gave d'hydromel, oui, entre deux parties de jeu de rôle. Oui, ça je veux bien, mais laissez-le s'évader, ce mec. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que vous vous acharniez comme ça sur lui à chaque fois? Bref. Merci. Donc, je t'en prie, ma belle. Aujourd'hui, je voulais parler de sexe. Voilà, bah, c'est comme ça. Je voulais en parler pour changer un peu, parce que la dernière fois que j'en ai parlé, c'était hier. Et voilà. Bah oui, je suis désolée, c'est ça, d'être en quotidienne. Qu'est-ce que vous allez faire, hein? Baisser mon salaire, c'est mathématiquement impossible. Ou alors, il faudrait renommer la station Bangladesh Inter. Un peu border, je m'en excuse. Alors non, j'aime parler de sexe, moi, déjà, parce qu'être une jeune femme qui parle librement de sexe, c'est très très militant. Et aussi parce que, en ce moment, moi, je me pose un peu, j'ai rencontré un mec avec qui je suis bien, voilà. Et du coup, je voulais en profiter pour faire le point sur toutes les relations que j'ai traversées avant. Il y en a quelques-unes qui valent le coup d'être étudiées, je pense. Avant mon mec, j'étais avec le mec que j'appelle le poète. Celui qui jouissait en alexandrin. Ah, cruel, tu m'as trop entendu. Je sais, Philippe, c'est pas un alexandrin, il était précoce. Une fois, on faisait l'amour, c'était horrible, il s'est arrêté parce que, je cite, il était hypnotisé par mon petit coquillage spiralé. C'était horrible, je l'ai plus jamais laissé me voir de derrière. Avant lui, j'étais avec un gars qui avait la même voix que Garou. Alors, c'est marrant, la première nuit, tu fermes les yeux, tu t'imagines te taper Quasimodo, pourquoi pas? Non, mais il y a ce fantasme de l'interdit, il y a ce truc-là. Mais au bout d'un moment, quand à chaque fois qu'il te dit que t'es belle, toi, tu peux pas t'empêcher de penser que c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Ça devient un problème, croyez-moi. Encore avant ça, j'étais avec un motard. Alors, c'est super, hein, le motard, c'est la liberté, c'est la vie, c'est la route 66. Mais sexuellement, c'était pas ça. Parce que, non, quand je dis route 66, je parle de son âge. Ouais. La première fois que je l'ai vu essouffler après avoir démarré la Harley au kick, je me suis dit que c'était pas avec lui que j'allais pouvoir tester la nouvelle position extrême dont m'avait parlé ma copine Leïla. J'ai changé le prénom, j'avoue pas vous rigoler. Attention, c'est pas le plus vieux que j'ai daté. Parce que après ça, j'ai aussi traversé la phase ultra yeuve. Alors, je peux même pas vous dire son âge, je vous jure, vous allez être choqués. Mais bon, à sa décharge, il était super en forme, ça se voyait pas du tout. Franchement, vous le verriez présenté vivement dimanche.
Il est plein de fougue. Et tous les dimanches, il fait ça. On fait le faire pour Michel. Si tu nous regardes, on t'embrasse. Mais j'ai un regard quand même très tendre sur mes histoires passées parce que bah, c'est grâce à eux que je me rends compte de la chance que j'ai d'être avec mon mec actuel. C'est grâce à eux que je me rends compte que j'ai de la chance de plus être avec eux. Et grâce à mon mec, moi, je me sens bien. J'ai l'impression que tout ce que j'ai toujours dû cacher, c'est exactement ce qu'il aime chez moi. Qu'en fait, avec lui, je me respecte et je me fais honneur. Que l'aimer lui, ça m'aide à m'aimer moi. Et en fait, c'est clairement à lui que je rends hommage aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.
Bravo! Emma Beaujean.
Sur scène aussi, tous les vendredis à 21h, c'est au Théâtre des Mathurins.
Tanguy Pastureau nous a rejoint. Bonjour Tanguy.
Coucou.
De quoi?
Ben Nagui, je vais vous parler d'une étude du Trésor sur les smartphones, parce qu'à force de scroller, bon, on perd des points de QI, ça on le savait, mais l'étude dit que c'est plus grave. Là, actuellement, on perd des points de PIB.
D'accord, ok, business, on va écouter. Quoi. Non,
c'est l'argent.
Ah, je suis resté tout quoi. Voilà. Mise en scène par Léna Brébon, La folle journée ou Le mariage de Figaro, unité de temps, unité de lieu, on est, et d'action, on est vraiment dans les codes. Philippe Torreton est notre invité, il joue à la Scala cette pièce et on en parle avec lui jusqu'à midi et demi. Original avec Leïla Kadour-Boudadi, avec Lisa Delmoitier, Emma Beaujean, Julien Santini, Aude Delaf, Tanguy Pastureau, Daniel Morin et notre invité, Monsieur Philippe Torré.
Oh là là, Philippe.
La bande originale. Leïla Kadour et Nagui.
Sur scène, Philippe Torreton, avec une troupe que vous avez constituée avec Léna Brébon. Ça, c'était d'abord vous et ensuite les autres sont arrivés autour.
Bah, c'est un projet qui est venu. On a discuté avec Frédéric Biessy qui dirige la Scala, donc et puis on est tombé d'accord sur Le mariage de Figaro. Il m'a dit, moi, je voudrais que tu rencontres Léna Brébon. On s'est rencontrés, ça a été super. Et puis
vous parliez après... par exemple du choix de l'âge pour que la génération soit corresponde. Ça aide au casting déjà en se disant il faut que tout le monde soit à peu près du.
Oui, là-dessus, oui. Sur voilà. sur le quatuor comtesse Figaro, ouais. Suzanne, oui, d'être dans le. Mais c'est tout. Moins de jeu.
Pour rendre crédible l'histoire d'amour, de mariage et.
Il y a eu. Pour Antonio, quand elle n'était pas sûre, par exemple, je lui ai proposé Jean-Yves Rouen, puis elle l'a pris.
Le jardinier du château.
Ouais. Et puis elle a pris aussi un acteur que j'aimais beaucoup quand j'étais tout gamin. J'avais vu Mort accidentelle d'un anarchiste de Dario Fo avec Jean-Jacques Moreau. Et pour moi, quand je serai grand, je veux être
médecin.
Jean-Jacques Moreau.
Qui joue là le médecin de Séville.
Et du coup, on s'est recroisés. Je lui ai dit, mais t'as pensé à Jean-Jacques Moreau pour Bartolo? Elle me dit, ah non, c'est une bonne idée, ils se sont vus. Et puis voilà. Mais c'est tout ce que je... C'est la distribution, c'est elle qui a décidé, bien sûr.
Ouais. J'imagine avec votre accord. Et puis ça se sent, encore une fois, qu'il y a cette entente. Quand vous êtes dit, avec le directeur de la Scala, on est vite tombé d'accord sur La folle journée ou Le mariage de Figaro, est-ce que vous avez beaucoup hésité? Est-ce que la fraîcheur de l'actualité autour du consentement, de MeToo, justement, des classes sociales, de tous ces combats, vous avez dit, ça a tellement une résonance actuelle que c'est absolument celle-là qu'il faut faire, ou vous avez hésité avec une autre?
Ah non, on n'a pas hésité, j'ai pas hésité en fait, mais non, la seule hésitation c'était la question de l'âge, je me suis dit mais ce serait con de se faire allumer là-dessus et tout ça
en dit. Il y a que vous qui en parlez, pardon, hein, mais non mais c'est vrai, la question ne se pose pas.
Non, il y a eu il y a eu
quelques. Quand on lit Figaro, on se pose pas nécessairement la question
non,
de l'âge
c'est vrai
du rôle, hein,
mais
la lecture.
Fallait pas qu'on tombe dans la caricature d'un mec de presque 60 avec une Suzanne de 20 ans. C'était important de pas montrer ça. Donc
non mais si ça Suzanne à son âge.
Voilà, ouais, c'est ça, d'être dans les mêmes zones, quoi, enfin, presque. Et c'est, ça, c'était important. C'est générationnel. Ouais. Voilà. Et pour moi, non, j'avais très, très envie de dire ces mots-là. Pas seulement le fameux monologue, mais tout ce qui est dit avant, tout ce qui est dit pendant. Et c'est important, ça. C'est, de faire entendre ça, de cette pièce qui commence, oui, par une dénonciation d'un comportement agressif.
De toutes les dominations, que ce soit au sein d'un couple, le consentement, que ce soit la domination sociale, que ce soit aussi la manière dont on peut tordre le bras à la justice.
À la justice enfin, aussi,
toutes les dominations sont, entre guillemets, dénoncées.
Ouais.
Et, alors évidemment, encore une fois, on rit presque de sidération en se disant bah, « non, c'est quand même pas
mais moi, j'aime bien possible. Les silences aussi, parfois, quand
c'est quoi,
Figaro dit certaines choses. Ouais, sur quand il parle du un envoyé de je ne sais où se plaint que j'offense dans mes vers la sublime porte, la Perse, une partie de la presqu'île de l'Inde, toute l'Égypte, les royaumes de Barca, de Tripoli, de Tunis, d'Alger et de Maroc. Et voilà ma comédie flambée pour plaire au prince mahométan, dont pas un, je crois, ne sait lire, et qui nous meurtrisse l'omoplate en nous disant « chien de chrétien ». Nous pouvons avilir l'esprit, on se venge en le maltraitant. Et bah, le silence qui suit ça,
ouais, ouais, évidemment.
C'est pas mal.
Parce que ça résonne.
Ça résonne terriblement.
Terriblement, terriblement. Le texte incisif, intelligent et drôle de Beaumarchais se joue donc à la Scala dans les propos, dans le jeu de Philippe Torreton et de la troupe menée par Léna Brément à la mise en scène. Voici Tanguy Passion.
Petit bilan, émission Cali, belle énergie, bravo. Nagui Lila, ça fait quoi la bande originale? 30-35 ans, et toujours au taquet. Et puis cet invité, Philippe Torreton, l'un des rares à qui je peux dire j'ai lu votre roman l'année dernière. Dès que je peux, je le dis, parce qu'on ne sait jamais si bientôt on a Amel Bent ou Jordan Bardella, ce qu'on appelle ici les coups de cœur perso de Nagui. Bon, bah, c'est pas là que je prononcerai cette phrase. Je veux dire, la première n'écrit pas de livre, et le second non plus. Des gens le font, et lui écrit bisous Jordan à la fin. Retrouve-moi sur tous mes réseaux XOXO. Moi, Philippe, j'ai lu votre roman Un cœur outragé et je suis ce lecteur qui se souvient où il était quand il a lu tel livre. Pour le vôtre, bah, j'étais dans mon lit, parce que je lis le soir. J'étais nu, ça c'est de la fiction, hein, c'est pour les auditeurs. J'avais tous les muscles bandés par une secousse quasi animale, ça c'est de la science-fiction, voilà. Destinée à tous ceux qui ne me connaissent pas. Et je vais parler de moi, parce que je suis le seul repère stable dans une France en pleine instabilité. Je lis de plus en plus. Avant, je lisais très peu. Même mon bilan sanguin, je le lisais pas. Je disais au médecin, bon, est-ce que j'ai une chlamydia? Il me répondait non, je disais ça m'aurait étonné aussi parce que j'ai pas eu de date depuis 17 ans, c'était avant la gloire. Hein. Et je passais à autre chose, j'étais basique. Pendant longtemps j'ai fait que regarder des séries, par exemple j'ai perdu 6 ans de ma vie à regarder Lost. Dès le premier épisode on savait qu'ils étaient tous morts dans le crash de l'avion, mais on regardait en se disant les scénaristes sont américains avec leur science du divertissement, ils vont nous pondre une fin de dingue. Eh ben non, ils étaient juste morts. Hein, le truc que tout le monde fait, même Schopenhauer ou Prince sont morts. Hein, on dit sont des génies. Tu parles, il termine comme ta tante Martine qui a rien branlé de sa vie, quoi. C'est pour ça que mon conseil, c'est de votre vivant d'en faire le moins possible. Vous allez chez Nature et Découverte, vous achetez un hamac, vous dites à votre mari de secouer son bâton de pluie. S'il a cru que c'était une image et qu'il retire son jean avec l'air pas net, vous le recadrez. Et vous dormez. Voilà, vous attendez le comeback de la gauche pour profiter du revenu universel. Et vous finissez votre vie avec l'énergie vitale de Louis Boyard ou d'une éponge de mer. Les séries, moi franchement, j'ai quasiment arrêté parce qu'il y en a trop. Hein, le temps de regarder l'offre sur les plateformes, il est 4h du matin. Et puis, c'est toujours pareil, les séries policières scandinaves, avec des flics déficients au niveau émotionnel qui trouvent des corps découpés sous la neige, ça m'ennuie. Les séries sur les narcos, ça m'ennuie. Et puis, à un moment, j'ai envie de me sortir la tête de l'univers des médias. Les séries espagnoles, j'en peux plus, c'est le contraire des scandinaves. Tout le monde est sur la brèche, ça hurle, les flics couchent ensemble, on ouvre le tiroir à la morgue, on a l'impression qu'on va se faire engueuler par le cadavre de Madame Sanchez. Les séries Netflix, tu sens que dans le cahier des charges, il fallait caser un membres de chaque minorité. Hein, parfois, il y a une coulée de neige, les trois héros se font emporter, il y en a un qui crie « Je suis gay !» Hein, pendant que le deuxième s'accroche à son fauteuil roulant dans l'avalanche et que le troisième, qui est noir, se met à crier « Free Palestine !» Moi, je décroche. En fait, je regarde plus que des suites de séries que je regardais avant. Par exemple, là, je regarde Dexter. Vous connaissez?
Oui.
Hein, alors, ça m'a traumatisé. Hein. Oui. C'est-à-dire que maintenant, quand un artisan étale des bâches plastiques dans mon salon avant de le peindre, je me barre en hurlant. Mais à part ça, je lis de plus en plus et vraiment, je regarde de moins en moins les écrans parce que j'y arrive plus, en fait. On voit tellement d'images tout le temps, je sais pas, j'ai saturé. En plus, j'ai toujours eu du mal à regarder un film en entier. J'ai jamais vu la fin du film Seven. Hein, on m'a dit que Brad Pitt recevait un colis. C'était à l'époque. Aujourd'hui, il aura un avis de passage avec écrit absent. Enfin, j'étais là. J'avais posé mes RTD. Ah, crolapaste! Mais on passe nos vies à regarder des écrans qui nous déconnectent de nous-mêmes et des autres. Et même pour le business, c'est pas bon, c'est important le business, l'argent, on peut en parler sur Internet. J'ai lu une étude du Trésor, d'accord, Trésor qui est vide en France, hein, il reste 4 euros, plus un post-it de Bayrou avec écrit « J'ai fait 130 émissions pour essayer de vous le dire ». Le Trésor explique qu'on perd des points de PIB à cause des écrans. Alors, en fait, il y a 3 effets néfastes. Le premier, la santé mentale. Il y a une explosion des troubles psy à cause d'Internet. Moi, par exemple, j'ai retiré mon site web pour que les gens arrêtent de se faire du mal en se comparant. Hein, il reste le site de Lucie Castet. Donc là, ils se disent, bon, là, ça va. Santé mentale en berne, ça veut dire absentéisme, soins psychiatriques, coût estimé par an 5 milliards d'euros quand même. 0,5 point de PIB. En deux, il y a la perte de temps productif, puisque les salariés gagent jusqu'à 2 heures par jour à regarder des vidéos consternantes. Il y en a même qui regardent cette chronique en vidéo. Je plombe le PIB. Et Daniel, qui chronique depuis 87, s'il n'avait pas existé actuellement, on aurait le PIB cumulé de la Chine et des USA. Troisième effet néfaste le plus angoissant, la dégradation des capacités cognitives des enfants. Traduction, nos lardons sont des cons. Ce qui n'est pas grave, on n'attend rien d'un enfant. Hein, des êtres qui débutent leur vie en regardant la patte patrouille, des chiens qui réparent des ponts, hein, on se doute qu'on ne va pas en faire des prix Nobel. Nous aussi, on regardait des débilités. Moi, j'ai 12 ans de Club Dorothée à mon actif. Je suis sorti de là, je bavais, quoi. Mais on n'était pas la tête dans les écrans 24 sur 24. Les enfants actuels, si. Une fois adultes, leur cervelle, ce sera comme un champ de blé après la moisson. C'est pour ça que ChatGPT, il faut vraiment que ça progresse parce qu'on aura, mais que des abrutis. Coût estimé, 2 points de moins de PIB par an en 2060 à cause de ça. Donc à toi qui regarde cette vidéo sur YouTube, eh ben je te le dis, éteins, jette ton téléphone et va lire du Toréton. Il y va de l'avenir de la France.
Merci du monde.
Et Tanguy sera sur scène le 16 octobre. Tanguy Pastureau, comme tu dis, sera à Paris. Gaîté Rive Gauche.
Très bien. À la Scala depuis le 6 septembre, Philippe Toréton interprète La folle journée ou le mariage de Figaro, adapté et mis en scène par Léna Brébant. D'autres événements culturels, Leïla.
Oui, on connaissait les comédies clubs. Eh bien, il y a une scène d'un nouveau genre qui émerge. J'espère qu'elle va s'installer durablement sur scène. Donc, pas d'humour, mais quoi, d'après vous ?
De la tristesse ?
Non.
Des classiques ?
Ça peut être de la... théâtre. Pas théâtre.
Du chant.
Des classiques.
De la poésie. De la poésie. Bravo, bravo, Emma Beaujean. Ça s'appelle le Poetry Club. Ça a été fondé en 2024. Et il y a des artistes, des poétesses et des poètes émergents qui viennent lire leurs créations sur scène. Pas de Louise Labbé, de Sapho, d'Yves Bonnefoy ou de Philippe Jacoté, non, de la poésie contemporaine écrite par des jeunes personnes dont j'imagine que c'est difficile d'en vivre aujourd'hui de la poésie.
Il faut que ce soit original.
C'est eux, oui, absolument. Ouais, alors après, j'imagine que les soirées peuvent aussi se développer, peut-être sur le long terme autour de thématiques, mais pour l'instant, c'est aussi une façon de montrer que ces poètes et poétesses existent. Vous avez sorti il n'y a pas longtemps, c'était en 2022, une anthologie de la poésie française, Philippe Toréton, où vous aviez sélectionné, je crois, 150 textes à peu près.
150 auteurs et 300 textes.
300 textes, voilà. Donc ça doit être un travail assez colossal de faire le choix.
Mais c'est un travail génial de faire ça. Vous vous rendez compte ? J'étais payé pour lire de la poésie tous les jours chez moi, commander des livres, sélectionner, voir, et puis c'était extraordinaire, c'est un voyage dans l'âme humaine, mais fabuleux.
Et qu'est-ce qui est apparu justement après la lecture de tout ça et ce choix que vous avez fait ? C'est un portrait de vous, quelque part, votre anthologie.
Forcément, de toute façon, à chaque fois qu'on... Mais ce qui m'a frappé, c'est vraiment que c'est comme si on avait écrit depuis la nuit des temps un seul poème. Ouais. C'est un seul chant humain. Et qu'on n'a pas changé. On nous fait croire qu'on a changé. C'est vrai qu'on a les smartphones, c'est vrai qu'on a des trucs. Mais tout ça, l'âme humaine, eh ben on a peur du noir. Mmh. On ne veut pas de guerre. Mmh. On veut de l'amour. On veut essayer de... On veut être vigilant. On veut se... Et ça, c'est ce qu'a très bien résumé Baudelaire. Quand il parle de cette vigilance-là. Ce cri répété par 1000 sentinelles. Et les poètes sont des sentinelles de l'âme humaine. Mais c'est une seule entité humaine qui a parlé. Et que ce qui m'a frappé aussi, c'est que les femmes ont toujours écrit. Oui. Et ça, c'est frappant de découvrir des destinées humaines. Marie de Gournay et tant d'autres. Marie de Gournay, qui était copine avec Montaigne, elle lui a écrit une lettre parce qu'elle avait trouvé ça formidable et qu'elle était destinée à épouser un petit couillon noblio de province. Et elle a pris le grec, l'hébreu et le latin toute seule. Elle a écrit à Montaigne. Ils se sont rencontrés à Paris et ils sont devenus frères et sœurs spirituels. À tel point que Montaigne, en mourant, lui a légué sa bibliothèque et le soin de renouveler les différentes éditions des essais. Mais on en a... Qui apprend cette destinée ? Voilà, j'étais la chercher, je l'ai découverte comme ça, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux, tous ces destins oubliés.
Vous parlez beaucoup du passé. L'avenir, vous le voyez plutôt de quelle couleur ?
L'avenir, je le vois un peu grillé quand même.
Oh non, on est vendredi, c'est juste avant le week-end.
Non, mais, non, mais grillé, couleur terre de cendre, on va
parlons
dire.
Parlons de la nature humaine, oui, c'est ça.
Mais les... la nature humaine, bah non, mais on est à...
Les guerres un tout petit peu partout, malheureusement, sur la planète, les montées du populisme, le retour en arrière, parce qu'on parle de la situation des femmes, il faut se battre à nouveau pour que cette situation soit protégée.
On a l'occasion.
On pensait pas avoir à remettre sur le métier.
Droits,
sur,
ouais,
ces droits qui sont remis en cause dans pas mal d'endroits du monde.
C'est pour ça que tous ceux qui se moquaient de mettre l'avortement dans la Constitution, qui disaient ça sert à rien, il y a une loi. C'est utile.
Les lois se changent.
Bien sûr. Ouais. Et comme toute période un peu trouble, mais là je pense qu'on est quand même dans le gros trouble de l'humanité, mais on a l'occasion de se ressaisir, d'y voir assez clair. Moi, entre autres, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de commenter la politique d'un point de vue un peu punchline c'est parce que j'avais l'impression de finalement participer à cette inadéquation à notre époque. Je trouve que ce qui se passe en ce moment, c'est un signe d'inadaptation totale au péril en cours. Et je crois que ils avaient compris ça, par exemple, au début de la guerre de 14, ils ont arrêté de faire de la politique. C'était l'alliance sacrée. On s'est dit, bon, il y a trop de morts sur les champs de bataille, on va pas être de droite, de gauche, du centre, de nana. Mais là, j'ai envie de leur dire, réveillez-vous, c'est ce qui se passe. La guerre de 14, c'est pichenette à côté de ce qui se passe en ce moment. C'est rien du tout. Et on est toujours de droite, de gauche, à se regarder, à se renifler le derrière, à se dire « mais ouais, mais non, toi, non ». Et c'est totalement inadapté à la situation.
Alors qu'il pourrait y avoir des valeurs sans étiquette politique, quoi, des valeurs humaines.
On pourrait s'entendre, oui. La dette de la France, c'est quand même important. L'écologie, c'est un vrai problème, qui est ni de droite, ni de gauche.
Absolument.
Enfin, on ne peut pas s'entendre
comme
là-dessus.
Comme le racisme, l'antisémitisme.
Mais oui, voilà, c'est ça qui me désespère.
Et du coup, il ne faudrait pas qu'il y ait de couleur politique qui aille avec
ces... Sur le racisme et l'antisémitisme ou l'islamophobie, j'ai bien peur que toutes les parties ne soient pas complètement alignées.
Ça, on est d'accord.
Donc voilà, je pense que tous les thèmes ne font pas consensus.
Non.
Autre question, je vous demande. Dans le sud-ouest, en Gironde, à Bourg-sur-Gironde, absolument, précisément, pour un petit sourire du vendredi, on va parler de Monsieur Soulard. Monsieur Soulard, on ne va pas des patronymes. Non, pas du tout. Monsieur Soulard
c'est qui ?
Va faire homologuer sa création au Guinness Book des records depuis 8 ans. Il travaille dur pour que sa création entre au Guinness Book des records. Cette création, je la décris. C'est une maxi-boule qui fait 40 kilos, pardon, je rissole, et 150 cm de diamètre. D'après vous, Monsieur Soulard l'a fabriqué avec quoi ?
Mais dans quel coin de la France, pardon ?
On est dans le sud-ouest. Mais ça n'a pas vraiment
des bouchons de vin.
Pas avec des bouchons.
Avec des morceaux de peau.
C'est lié à...
Oh.
Non, mais c'est vrai que c'est pour être intéressant.
C'est intéressant, Nagui, ce que je dis.
C'est pas intéressant.
Donc une boule de 40 kilos, 150 cm de diamètre fabriquée. Cette boule est rouge, c'est mon dernier indice.
Un cochonnet ?
Non.
Des fraises ?
Mais non, 150 cm.
Non, il a aggloméré depuis 8 ans.
C'est pour un sport ?
Du rouge. Non, c'est pour entrer dans le Guinness Book des records, ça ne sert à rien. Bravo,
Babybel. Merci Leïla.
Depuis 8 ans, Monsieur Soulard, que fait-il ? Il récupère la cire de son Babybel.
Oh. Ah bon, il la mange pas ?
Oui, il faudrait que je l'invite.
J'adore.
Je fais des soirées le mercredi soir, je voudrais l'inviter.
Alors, je t'explique. Depuis 2018, il a mangé environ, on estime pour avoir une boule de 40 kilos, 8750 Babybel. J'imagine que la famille l'a aidé, parce que seul, c'est quand même une épreuve.
Il ne parle plus, surtout.
Ça représente 3200 euros de Babybel. C'est un investissement.
C'est un bon fromage.
Depuis 2018. Voilà, je me suis dit que cette petite information est passée sous les radars et qu'il n'y avait pas de raison.
Il y a peut-être une raison.
Eh oui.
Non, Leïla, merci.
Alors, justement, je me suis renseignée. C'est né auprès du Guinness Book. Et le Guinness Book, saviez-vous, publie chaque année des défis à battre. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'imagination, eh bien le Guinness Book vous aide. Et par exemple, le Guinness Book nous alerte. Trois propositions, bien sûr. Le record du plus grand nombre de canettes écrasées avec le pied en une minute n'a pas été battu depuis qu'il a été déposé. Donc si quelqu'un autour de cette table...
C'est bien, je cherche un projet. Moi.
Exactement. Parmi les défis à battre, ou les défis à enregistrer au Guinness Book, pousser une orange sur 100 mètres en une minute avec son nez. Et ben moi, je trouve que ça donne
petit
objectif dans la vie. La dernière fois que vous avez été confronté à une situation de dépression, Philippe Thorez, comment est-ce que vous en êtes sorti ? Qu'est-ce qui vous aide dans les moments où vous vous sentez en train de flancher ?
Ah, ça m'est pas arrivé vraiment, de vraiment le burn-out ou le voilà. Mais je sais pas, c'est la musique et les textes, enfin ce qu'ont écrit les autres, ça m'aide beaucoup. Hein.
Vous n'avez pas une petite passion un petit peu difficile à avouer ?
Je travaille le bois, par exemple, ça m'aide vachement.
Vous créez quelque chose ou vous le...
Non, je récupère sur les trottoirs, tous les dimanches, premier dimanche du mois, les gens qui jettent des belles planches, j'en fais des choses, ou je récupère des meubles s'ils sont massifs.
Mais c'est juste une collection ou vous rénovez vous...
Je rénove, j'adapte et puis j'accumule surtout. Mais et du coup j'achète des outils, donc j'aime bien acheter des outils. Et puis non, j'essaye de le j'aime bien travailler le bois. Ouais, j'aime bien voir une planche pourrie, la passer dans la raboteuse, là puis elle sort tout.
C'est parfait pour quelqu'un qui se retrouve sur les planches. Oui, des excuses à présenter Daniel.
Mais plein d'excuses, désolé pour tous les auditeurs fans de cette émission La Bande Originale, parce qu'autour de la table, il y a que des comiques de gauche incultes. Eh ben non, aujourd'hui tout le monde y a été de son petit coup de cœur théâtre classique à base de ah ben moi c'est Othello. Oh non, moi c'est plutôt Scapin. Ah, je suis très très Cyrano. Oh non, non, moi c'est Lucrèce Borgia. Rassurez-vous, on nous avait donné des fiches, on a même répété non, spontanément, sinon on aurait cité Camping, Fast and Furious, Peppa Pig ou La Pâte Patrouille, tanguée par la seule personne honnête dans cette émission. Désolé pour le public qui s'apprêterait à prendre des places pour voir Monsieur Philippe Torreton dans le rôle cultissime de Figaro. Eh ben non. Attention, arnaque, il joue Emmanuel, il est même pas à poil, et il n'y a même pas de fauteuil en osier, n'y allez pas. Désolé pour le doudou de petit Philippe Torreton, qui avait oublié cette première partie de sa vie. Aujourd'hui, Elmer est trader, et il avait entendu parler de Philippe. Il a entendu Philippe qui parlait de lui, Nagui rappelait quand à l'époque où il sentait fort, ça lui a rappelé ses années de gauche. Voilà, ça lui a mis un petit coup de seum, incroyable. Pardon, Elmer.
Merci, merci Philippe Torreton. Vous diriez à un enfant, viens voir La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro parce que...
Parce que...
Ça t'évitera de le lire.
C'est enlevé. Et même si tu comprends rien, tu vas rigoler. Voilà. Mais j'ai mon petit-fils de 4 ans qui l'a vu.
Ouais, pourquoi vous dites tu comprends rien, on comprend ?
C'est une langue difficile. Quand on est un jeune gamin, oui, c'est compliqué, il faut pas se leurrer. Mais on a fait en sorte que ce soit...
L'interprétation, c'est très moderne, au contraire.
Ouais, que ce soit accessible, mais ça suppose vraiment s'enquiller le texte et de le savoir plus que de le savoir. Et non pas par cœur, mais par le cœur, comme disait un prof de théâtre, Daniel Mesguich. Ouais.
On connaît un texte à partir du moment où on a le sentiment de l'oublier ?
Quand on le comprend. Ouais. Souvent, on croit savoir, on le sait mécaniquement, mais si on ne le comprend pas, on ne le dira pas bien. Non, et comprendre, pour en avoir parlé avec Michel Bouquet, bah c'est toute sa vie pour comprendre un texte. Toute sa vie. Parce que là, je suis sûr que si on arrête de Figaro pendant 6 mois et qu'on le reprend, mais tous les acteurs vont se dire... Mais, pourquoi j'ai joué ça comme ça ? Enfin, cette réplique, elle est tellement mieux comme ça. C'est tellement plus simple, plus évident. On n'en a jamais fini de ça. Et ça, c'est ça qui est merveilleux. Non, non, la langue, honnêtement, elle est difficile. Il y a plein d'expressions qui n'ont plus cours, etc.
Et après, pourtant, il y a plein de choses qui ont de la résonance.
Mais oui, et c'est le jeu des comédiens pour la rendre présente, palpable, vivante.
À la Scala, merci d'être venu, Philippe Torreton.
C'est moi, je suis trop content.
Plaisir. On se retrouve. Hey avec toi à la télé, Audrey Fleurot et Danny Boone seront nos invités. Belle journée sur Inter. À lundi, merci.